Métaphysique à Fribourg, le 15 février 83, premier cours.
Nous avions donc la dernière fois essayé de comprendre le problème de l'être en acte et de l'être en puissance. Si vous vous souvenez bien. C'est-à-dire essayer de comprendre l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» du point de vue de sa perfection. Et je vous avais dit, n'oublions pas que ce problème se repose tout le temps. Pour Aristote, il s'était posé de cette manière, puisque c'est lui qui est le grand-père de cette découverte, ou le père de cette découverte, on peut dire. Le problème s'était posé de cette manière que Platon disait que le bien est au-delà de l'être. Que le bien est au-delà de l'ousia. On comprend très bien qu'en face de cette position de Platon, qui est quelque chose de très caractéristique à la position de Platon et qui est repris avec Plotin, en face de cette position, Aristote se pose la question, est-ce que vraiment il peut y avoir un au-delà de l'être ? C'est une question dans laquelle on se pose tout le temps. Et on se pose encore cette question-là aujourd'hui, vous voyez. Le dernier livre, Dieu sans l'être. Vous voyez, c'est quand même intéressant de voir que cette position est constante. Pourquoi Platon dit-il que Dieu, que le bien est au-delà de l'être ? Pourquoi aujourd'hui certains philosophes disent Dieu sans l'être. C'est quand même intéressant de se poser la question. Alors, est-ce que l'être est fatigué ? Les pneus sont usés. Alors, ça dérape. Et alors, on ne veut surtout pas que l'absolu soit dans l'être. Je crois que, sous-jacent à la position de Platon, c'est très net. Je crois qu'on peut dire ça pour toutes les autres positions. Vous voyez, le père de finances, du reste, lui aussi disait que l'action était un sur-être. Alors il ne disait pas au-delà de l'être, mais un sur-être. C'est une position intermédiaire. Ce n'est pas exactement la position de dire que l'action est au-delà de l'être, ou le bien est au-delà de l'être, mais il y a quelque chose qui fait que c'est un sur-être. L'être n'explique pas l'action. L'être n'explique pas le bien. L'être ne peut pas nous permettre de remonter jusqu'à Dieu. Alors je crois que sous-jacent à cette position, il y a une conception univoque de l'être. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Il y a une conception univoque de l'être, celle de Platon est très nette. La position univoque de l'être chez Platon, c'est de identifier l'être avec l'intelligibilité. Nous y reviendrons, du reste, parce que ça, c'est très important de bien saisir cela. Platon identifie l'être avec l'intelligibilité. Ce que toute position idéaliste réalise. L'être est une idée. L'être est donc conçu dans l'ordre de l'intentionnalité. Et c'est en face de ça que Heidegger réagit si violemment, en disant que l'être ne peut pas être une idée. Il ne peut pas y avoir de concept de l'être. Alors il réagit à sa manière très brutale en disant « il ne peut pas y avoir de concept de l'être ». Donc l'être ne peut pas être dans l'ordre de l'intentionnalité. Et pour Heidegger, l'être, je le saisis, je le pense, mais l'être ne me permet pas non plus de remonter jusqu'à Dieu. Parce que Dieu ne peut que se révéler lui-même. Et donc, l'être ne permet pas de découvrir Dieu. Vous voyez, sous-jacent, il y a une conception très curieuse de la création. Parce que les anciens, tous les pères de l'Église, voient dans la création une certaine manifestation de Dieu. Il y a une révélation naturelle qui se fait par la créature. La créature est l'effet de Dieu, et si l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, L'homme est une certaine manifestation. Je ne dis pas que c'est une parole de Dieu. Ce ne serait pas tout à fait juste. La révélation nous donne la parole de Dieu, nous donne la communication directe de Dieu et nous donne directement un enseignement de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu nous enseigne par la création, mais Dieu se révèle comme un artiste par son œuvre, comme un père par la communication de la vie. Refuser à l'être la possibilité de remonter jusqu'à Dieu, c'est donc nécessairement considérer que la création, que la créature n'est plus une manifestation de Dieu. C'est donc concevoir la création comme quelque chose qui est d'ordre purement équivoque. Si Dieu crée, très bien, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien du tout. Alors, vous voyez, comme tout de suite, il y a des répercussions énormes au point de vue théologique. Parce que quand on dit que la grâce perfectionne la nature, quand on dit que la grâce est reçue dans la nature, si la créature est purement équivoque par rapport à Dieu, et qu'on reconnaît que la grâce est d'ordre d'une participation à l'égard de Dieu, je ne vois plus comment la grâce peut perfectionner la nature. Et ça a beaucoup de répercussions, c'est pour ça que c'est important de le saisir. Parce que c'est important de saisir que dès qu'on prend cette position-là, on prend une position qui fait qu'il ne peut plus y avoir de philosophie, de vraie philosophie, il ne peut plus y avoir de voie d'accès vis-à-vis de Dieu. Donc l'intelligence humaine ne peut plus remonter vers Dieu. Les paroles de saint Paul ne signifient plus rien. Les créatures visibles nous conduisent vers l'invisible. Tout ce qui est dit dans l'Écriture, tout ce que les pères de l'Église ont dit et redit constamment, tout ça ne signifie plus rien. Il faut comprendre que on est devant, et du reste, on est bien conscient de cela, on est devant quelque chose de tout à fait nouveau, qui est la véritable découverte de Dieu. Marcion n'hésite pas de dire que c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau comparativement à tout ce qui a été dit avant. Alors, c'est intéressant parce qu'il faut se poser la question, comment un chrétien, un homme qui est disciple de Heidegger, un homme qui a un sens quand même de la pensée, peut-il arriver à une telle position? Alors, je crois que c'est une position très ancienne, celle-là. Vouloir exalter l'amour au détriment de l'être. Vouloir exalter l'amour au détriment de l'être. Vouloir exalter l'amour en disant l'amour n'a rien à voir avec l'être. Vous savez bien ce qu'il dénote dans son livre. Je ne l'ai pas lu en entier, mais je n'ai pas encore eu le temps, mais je compte le lire. Alors, quand il dit Dieu est amour, il est bien obligé de reconnaître. Hein. Alors qu'est-ce qu'il met? Dieu, amour. Parce que quand on dit « est », c'est ennuyeux. C'est très ennuyeux de dire « Dieu est amour ». Il faut bien donc reconnaître que le verbe « être » est employé par la parole de Dieu. Or, si « être » n'a rien à voir avec Dieu, la proposition « Dieu est amour » n'a plus de sens. Il faut mettre « être » entre parenthèses et dire « Dieu amour ». Séparer complètement, donc c'est toute une manière particulière de regarder l'Écriture, séparer complètement Dieu du langage normal. Et pourtant, Dieu se sert de la langue des hommes pour nous révéler. Il y a pure équivocité entre Dieu et nous-mêmes. Donc, la foi, voyez, qui nous fait adhérer au Dieu amour, n'a plus rien d'intelligible. Il faut croire parce que c'est absurde. Hein. C'est cette fameuse chose ancienne qui revient tout le temps. On refuse toute intelligibilité par rapport au problème de la parole de Dieu et par rapport au mystère de Dieu. On est en face de quelque chose d'irréductible. Donc, on veut mettre un hiatus complet entre amour et être. Je crois que c'est ça. Pour exalter l'amour au détriment de l'être, si j'ose dire. C'est cette vision, vous voyez, qui a toujours un peu existé, il faut bien le reconnaître, elle a toujours un peu existé. Elle existe chez Platon, c'est bien évident. Elle existe chez Platon, l'amour qui est lié au bien est au-delà de l'être. Il ne faut surtout pas que l'être touche l'amour et le bien. Donc il faut mettre une séparation complète entre les deux. Par le fait même, la volonté, notre cœur est fait pour aimer et atteindre le bien, mais notre intelligence, qui regarde l'être, ne dit rien de Dieu. Il y a donc une coupure complète dans l'esprit. J'atteins Dieu par le cœur, je ne peux pas l'atteindre par l'intelligence. Il y a une espèce de coupure, si vous voulez, entre les deux, pratiquement. Je crois que c'est cela qui fait comprendre cette position, parce qu'il faut la comprendre. Il faut la comprendre pour mieux la critiquer, hein, vous voyez bien, pour mieux saisir ce qu'il y a d'erroné, de confusion dans une telle position. Il faut reconnaître donc que c'est une position qui n'est pas neuve, c'est faux de dire qu'elle est neuve, elle est très ancienne. Elle est très ancienne et elle a toujours un peu existé chez les mystiques, toujours un peu, pour mieux saisir le côté transcendant de Dieu. On comprend, cette intention est très bonne, hein. On est en face d'une pensée qui est trop rationnelle. On identifie intelligence et raison. On identifie être et rationnel. À la suite de Hegel. Tout être est rationnel. À la suite de Hegel. Vous voyez donc. Au fond, on est en dépendance de Hegel. On reste dans cette dépendance, on identifie être et rationnel, et puis on identifie intelligence et raison. Et on comprend très bien, dans une position dialectique, il ne faut jamais l'oublier, c'est uniquement l'intelligence raisonnante. C'est l'intelligence qui raisonne qui est dialectique. Ce n'est pas l'intelligence contemplative. L'intelligence contemplative est au-delà de la raison. L'intelligence contemplative est au-delà du rationnel. Il y a au-delà du rationnel l'intelligibilité. L'être est intelligible. Quand je dis que l'être est intelligible, je veux dire que l'être est plus que rationnel. Je veux dire qu'il y a deux manières pour moi de saisir l'être. D'une part, je le saisis et j'essaie de m'être le plus proche de lui, et puis je sais que l'être possède en lui-même quelque chose qui est la mesure de mon intelligence et qui, par le fait même, ne peut jamais être entièrement conçu, saisi. Il y a dans l'être quelque chose de plus. Donc, vous voyez, face à une telle position, je crois qu'il faut répondre en essayant de voir quelle est la conception de l'être qui est présente. Quelle est la conception de l'intelligence ou de la raison qui est présente? Et saisir à partir de là comment on ne peut pas accepter une telle position de l'être. L'être n'est pas univoque, l'être n'est pas enfermé dans les catégories, l'être n'est pas uniquement rationnel, l'être est suprarationnel, comme l'intelligibilité. L'être est au-delà des catégories, parce que les catégories ne disent qu'un aspect de l'être. Et donc, repenser l'être et repenser l'intelligence dans sa capacité contemplative, dans sa capacité de saisir l'être, jugement d'existence, qui montre que l'être est au-delà de ce que je peux saisir rationnellement ou conceptuellement. Et alors, à partir de là, rétablir, vous voyez, ce que nous avions essayé de comprendre la dernière fois, l'être en acte. C'est très curieux que c'est toujours ce problème de l'être en acte qui est en cause. Parce que si je restais uniquement sur l'être substance, ce serait très difficile de répondre. Mais si je comprends que l'être implique l'être en acte et l'être en puissance, l'être en acte, c'est la réalité qui existe. Et cette réalité, en tant qu'elle existe, mesure mon intelligence. Donc, implique quelque chose qui est au-delà de ce que je conçois. Et alors, comprendre l'être en acte et l'être en puissance, c'est saisir que ce qui est implique une connaissance analogique. C'est très curieux, qu'Aristote parle de l'analogie de l'être uniquement à partir de la division être en acte et être en puissance. Il dit aliment, aliment. L'être en acte et l'être en puissance, c'est une division à l'intérieur de l'être qui saisit l'être au-delà de la substance, au-delà de toutes les catégories, c'est bien évident, et au-delà de la substance, qui saisit l'être au-delà de toutes les déterminations, et qui fait comprendre qu'il y a dans l'être quelque chose que j'essaie d'analyser en regardant l'être en acte et l'être en puissance. Et j'atteins cela par l'induction que nous avions essayé de voir la dernière fois. Comment nous pouvons inductivement, c'est-à-dire par l'interrogation. Il faut toujours bien comprendre qu'il n'y a pas d'induction sans interrogation. Si j'interroge plus, je n'induis plus. Je suis au repos. Tandis que dès que j'interroge, mon intelligence est tendue pour essayer de saisir plus profondément dans la réalité ce qu'il y a de radical, ce qu'il y a de profond. Alors l'intelligence à ce moment-là est capable de saisir ce qui achève l'être, ce qui est la perfection de l'être, ce qu'il y a d'ultime dans l'être. L'être en acte, c'est ce qu'il y a d'ultime. L'être en puissance, c'est ce qu'il y a de plus radical. C'est par où l'être devient. Le devenir de l'être qui est enraciné dans l'être. C'est bien ça l'être en puissance. C'est que l'être implique dans sa racine profonde un certain devenir. L'être tel que je le constate. Parce que l'être en acte est indépendant de l'être en puissance. Et donc, il peut exister un être en acte pur. Mais toutes les réalités que je vois sont des réalités qui impliquent un être en puissance, qui impliquent donc une potentialité, qui, par le fait même, sont ouvertes au devenir. Puisque l'être en puissance me montre comment le devenir s'enracine dans l'être. C'est par l'être en puissance que je comprends le passage du devenir à l'être. C'est donc par là que je peux répondre, vous voyez, à Hegel, qui confond les deux. Et qui met toujours le lien entre les deux. C'est par la distinction de l'être en puissance que je comprends comment le devenir s'enracine dans l'être, mais que le devenir n'est pas l'être. Mais il s'enracine dans l'être, c'est évident. C'est que l'être en puissance est un être qui réclame le devenir, parce qu'il doit passer à l'acte. Et que l'être en acte est l'être ultime, l'être qui est au-delà de toute rationalité, l'être qui est au-delà de toute forme, donc au-delà de toutes les catégories. Dès que je saisis l'être en acte, je ne peux plus saisir l'être d'une façon univoque. Mais je crois que c'est ça qui est important à saisir pour montrer que c'est quand même quelque chose de très actuel aujourd'hui, cette connaissance de l'être en acte et l'être en puissance. Si on veut chercher la vérité, si on veut aller jusqu'au bout de la vérité, je crois que c'est très difficile de répondre à ceux qui, dans un souci de proclamer la transcendance de Dieu, opposent l'amour et l'être. Alors évidemment, je pourrais prendre des raisonnements beaucoup plus simples en disant, mais l'amour, il existe. Oui, mais justement, ce qui existe dans l'amour n'est pas l'amour. Voilà ce qu'il dirait. Dieu est amour, non, il faut supprimer. Donc il faut purifier l'amour de tout être, pour arriver à l'amour pur. Et l'amour pur, c'est Dieu. Et l'amour pur n'est ni substance ni acte. L'amour pur est amour. Et alors à ce moment-là, vous avez l'irrationnel absolu de l'amour, donc vous ne pouvez rien dire. Vous voyez ? Vous ne pouvez absolument rien dire. Alors on se demande pourquoi Dieu a parlé. Parce que toute la parole est un mensonge. Ça devient ça. Ça devient complètement irrationnel. Dieu aurait dû garder le silence. Ce n'est que le silence qui me conduit à Dieu. C'est vrai mystiquement. Mais mystiquement, ça ne supprime pas la parole. On sait que la parole nous aide à nous conduire à l'amour. Et on sait que l'amour, quand il est tout à fait parfait, nous conduit au silence. C'est sûr, on est d'accord là-dessus. On est bien d'accord que l'amour est plus silence que parole. Vous parlez quand vous aimez parce que vous êtes un peu angoissé. Alors il y a vite une parole pour supprimer l'angoisse. Mais quand vous êtes pris uniquement par l'amour, vous ne pouvez plus parler. Ça, c'est bien évident. L'amour implique un silence absolu. Mais ce silence ne s'oppose pas à la parole. Il n'est pas dialectiquement opposé à la parole. Quand le silence est dialectiquement opposé à la parole, le silence n'est plus le point de vue ultime et dernier. Il est en opposition vis-à-vis de la parole. C'est pour ça que l'amour, quand il est en opposition vis-à-vis de l'être, n'est plus l'amour. Au sens très fort. Parce que ce qu'il y a de plus vital, c'est l'amour. Et la vie ne s'oppose à rien. C'est le propre de la vie. L'amour ne s'oppose à rien. L'amour assume tout. Donc mettre une opposition entre amour et être, c'est faux. Ça va contre l'amour. Oui, et je crois que c'est encore un autre aspect qu'on peut développer. Parce que ça me semble aussi très important. Si je veux saisir vraiment ce que c'est que l'amour, je ne peux pas opposer l'amour à l'être. Opposer l'amour à l'être, c'est, encore une fois, me servir de l'être pour connaître l'amour. Parce que l'amour ne s'oppose à rien, si vraiment il est amour. Et donc, opposer l'amour à l'être, c'est méconnaître ce que c'est que l'amour. Donc, ceci simplement pour que nous comprenions que cette distinction de l'être en acte et de l'être en puissance est une distinction fondamentale. Dès que l'intelligence saisit l'être en acte et l'être en puissance, l'intelligence saisit que l'être en acte est antérieur à l'être en puissance. Je vous l'avais dit la dernière fois, je ne reviens pas là-dessus, je rappelle simplement que l'intelligence en même temps comprend que dans l'ordre du devenir, la puissance est antérieure. Ce qui est au fond très important à se rappeler. La conséquence de cela, c'est que nous sommes ici en présence de ce qu'on pourrait appeler le principe de finalité au niveau métaphysique. Et c'est important de le saisir, parce que c'est quelque chose qui est tellement vite perdu. La finalité au niveau de l'être. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Alors vous voyez que c'est important à saisir, tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. C'est comme ça que vous exprimez le principe de causalité finale au niveau de l'être. Et comme nous avions vu qu'il y a cinq modalités de l'être, cinq modalités de l'acte, je peux dire qu'il y a cinq modalités du principe de causalité. Alors vous n'avez qu'à le décliner et le découvrir. Je vais simplement vous les rappeler, hein, pour que vous les découvriez mieux. Mais il s'agit de les découvrir vous-même. Parce que si vous ne les découvrez pas vous-même, vous ne comprendrez pas. Et vous comprendrez en même temps que, puisque dans l'ordre du devenir, la puissance est antérieure à l'acte, vous voyez que par là, nous sauvegardons le point de vue du conditionnement. Le principe de causalité finale ne se réalise jamais à l'état pur. Il se réalise toujours à travers le devenir, donc à travers un conditionnement. Et ce conditionnement peut devenir tel qu'on peut être dans une situation limite. Et dans la situation limite, c'est quand la potentialité l'emporte sur l'acte. Il ne faut pas rappeler ce qu'un philosophe de Rome disait il y a quelques années. Si nous regardons ce qu'est l'univers aujourd'hui, ce que représente la communauté humaine aujourd'hui, on peut dire que l'humanité est en situation limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le devenir est tellement fort, l'être en puissance est tellement manifeste qu'il risque d'étouffer l'être en acte. Et c'est important, vous voyez, philosophiquement, de pouvoir situer exactement où se place le conditionnement. Le conditionnement, philosophiquement, au point de vue métaphysique, c'est justement dans l'ordre du devenir. Il n'y a de conditionnement que dans l'ordre du devenir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de conditionnement en Dieu. Mais Dieu se conditionne de telle manière, vous voyez, ce sont les fonctionnaires qui sont conditionnés. Et on est tous un peu fonctionnaires. Alors on est conditionné par le fait même, on a un souci de s'adapter pleinement pour mieux réussir dans l'ordre du devenir, pour mieux croître. Alors on a besoin de l'adaptation. Dès qu'il y a un devenir, il y a le conditionnement. Dès qu'il n'y a plus de devenir, il n'y a plus de conditionnement. C'est pour ça que la finalité nous libère du conditionnement, dans la mesure même où la finalité est la victoire de l'acte sur la puissance. Alors, dans cette même mesure, on est libéré du conditionnement. Tandis que plus vous êtes en puissance, plus vous êtes conditionné. C'est pour ça qu'un être qui perd le sens de sa finalité ne voit plus que le conditionnement. Et retombe dans le primat de l'être en puissance. Et c'est le primat d'être en puissance qu'il manifeste toujours. Alors, je vais simplement vous rappeler, hein, par rapport à ce que nous disions la dernière fois, les cinq modalités de l'être, vous rappelez bien, l'essai, c'est-à-dire l'exister, le point de vue de la substance comme capacité d'être, alors mettez entre parenthèses, la substance en tant qu'elle implique une essence, mais la substance aussi dans sa réalisation concrète. Deuxièmement, le bien. Alors, vous pouvez mettre l'appétit, ou l'amour. Troisièmement, l'appétit volontaire, la vérité. Alors, le jugement intellectuel. Quatrièmement, les opérations vita. Et la dynamis. C'est-à-dire la puissance vitale capable d'exercer ces opérations. Et cinquièmement, le point de vue du mouvement, le point de vue du corps. Alors, je vous avais dit bien réfléchir là-dessus pour chercher s'il y avait d'autres modalités de l'acte. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que le beau n'est pas une modalité de l'acte ? Que le beau n'est pas une idée de l'être. Vous voyez bien, nous reprenons là toute la synthèse de toutes les parties de la philosophie. Nous avons ici la première partie de la philosophie première, ici nous avons l'éthique, ici nous avons la critique, ici nous avons la philosophie du vivant, ici nous avons la philosophie de la nature. La distinction de l'être en acte et en puissance a un rayonnement sur toute la philosophie. C'est pour ça que dès qu'on découvre l'être en acte et en puissance, on a tout de suite une vision philosophique de tout le reste de la philosophie qui est beaucoup plus pénétrante, qui va beaucoup plus loin. Alors, il y a quand même quelques aspects qui manquent. À côté de l'éthique, il y a la philosophie de Fatshiré. La philosophie du Fatshiré, c'est la philosophie de l'art, la philosophie de l'activité artistique, qui est finalisée par le beau, d'une certaine manière. Le beau, c'est l'acte de la connaissance artistique.
Alors vous pourriez mettre là, vous pourriez mettre l'œuvre. Et puis, il y a la philosophie politique. Donc les deux que je n'ai pas donnés, les deux qui ne sont pas présents dans les cinq. Alors est-ce que c'est un oubli? Ça n'est pas arrivé, non? Il faut oublier. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que de fait, ils ne sont pas là, présents? Ça, c'est une question très intéressante de se poser ça. Il le faut. Si vraiment la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance va rayonner sur toute la philosophie, demandez-vous comment la distinction de l'être en puissance rayonne sur la philosophie du facturé, rayonne sur la philosophie politique. L'oubli que j'ai fait, si c'est un oubli volontaire, donc si c'est conscient, l'oubli que j'ai fait montre que la distinction de l'être en acte et d'être en puissance n'a pas de rayonnement immédiat sur la philosophie du facturé, ni sur la philosophie politique. C'est très curieux. Alors, il faut se demander pourquoi. Vous voyez, chaque fois que j'entre plus à fond dans la connaissance de l'être, il y a nécessairement un rayonnement sur toutes les autres parties de la philosophie. Et je me repose de nouvelles questions. Et chaque fois qu'on se pose une question, il y a nécessairement, dans la mesure où on est capable de répondre, il y a nécessairement une lumière nouvelle. Pourquoi le beau n'est-il pas une modalité de l'acte? Maritain dirait que le beau est une modalité de l'acte. Ça, j'en suis sûr. Quand vous voyez le beau transcendantal, c'est une modalité de l'acte. Est-ce que vraiment le beau est une modalité de l'acte? Je ne crois pas. Je crois que le beau est une modalité de la forme, mais pas de l'acte. Et je crois que l'œuvre implique fin et fait, et donc ce n'est pas non plus une modalité de l'acte. Donc, la conclusion, la distinction de l'être en acte et en puissance n'a pas de rayonnement immédiat sur la philosophie du facturé. Ça, c'est très curieux. La philosophie du facturé n'est pas une philosophie qui me permet d'atteindre la finalité au niveau de l'être. La philosophie du facturé est toute commandée par la causalité exemplaire. Et la causalité exemplaire, c'est quelque chose qui me conduit à la finalité, mais qui n'est pas la finalité. C'est même très souvent, vous savez bien, le grand rival de la causalité finale. La causalité exemplaire, pour nous, la plupart du temps, est rival de la finalité. J'ai un idéal de vie. Ah oui, très bien, vous vous cassez la tête. Celui qui a un idéal de vie. Non, on ne doit pas vivre d'un idéal de vie. Parce qu'un idéal de vie, ça ne se réalise jamais. Alors on est malheureux toute sa vie. Parce qu'on a un idéal de vie. On s'est forgé un idéal de vie. On s'est forgé un modèle. C'est-à-dire, je dois absolument être cela. Non, on a une finalité qui met en nous l'amour. La finalité porte sur un bien. Et pas sur le beau. Le beau, il n'existe que dans ma tête. Il est intentionnel. C'est très cru. Il n'existe pas dans la réalité. Vous allez me dire, oh, Dieu est beau. Oh, oui, Dieu est beau. Oui, ça c'est très vrai. Mais je ne l'atteins pas directement. Je n'ai pas eu l'expérience de la beauté de Dieu. Sauf mystiquement. Mystiquement, oui, mais ça c'est la mystique, c'est autre chose. C'est par la foi et c'est par l'amour. Mais philosophiquement, je n'ai pas l'expérience de la beauté de Dieu. Non. C'est pour ça que la philosophie du facere, vous voyez, qui conduit à la question du beau ou à l'œuvre, en est deux pointes de la philosophie du facere, ne sont pas une modalité de l'acte. C'est très important de saisir ça. C'est commandé par la cause exemplaire. Alors ça, oui. La philosophie politique, c'est le bien commun. Qu'est-ce qui finalise la philosophie politique? Le bien commun. Le bien commun. Est-ce que le bien commun est une modalité de l'acte? Est-ce que le bien commun me donne un sens très aiguisé de ma finalité? Est-ce qu'être un bon citoyen, un citoyen parfait, sous n'importe quel autre régime, n'importe quel régime, c'est pas peu importe, un citoyen parfait qui paie adéquatement ses impôts, qui paie les assurances sociales, être un citoyen parfait, est-ce que c'est ça qui me finalise? Intéressant de se poser la question. C'est très très important. Ou est-ce que le bien commun implique toujours un lien entre le conditionnement de l'homme et sa finalité? Mais je ne peux pas me libérer de mon conditionnement dans le bien commun. C'est extrêmement curieux. Il y a Platon qui aurait voulu, n'est-ce pas, que le bien commun, pour Platon, c'est assez difficile à préciser. Hein. C'est pas commode du tout à préciser, parce que pour lui, c'est tout de suite le bien transcendant. Mais Platon aurait voulu que le bonheur soit le bonheur du citoyen, qu'il n'y ait pas de bonheur personnel, d'une certaine manière. Parce que je crois que c'est très complexe. Le bien commun n'est pas une modalité de l'acte. Donc, la métaphysique de l'acte et de la puissance n'a pas d'influence immédiate sur la politique. Les deux parties de la philosophie, vous voyez, les deux parties de la philosophie qui ne sont pas immédiatement éclairées par la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance, c'est la philosophie du fatuer et la philosophie politique. Je vous dis ça à titre de recherche, hein, parce que ça m'inquiète. Ça m'inquiète et ça me pose une question. Ça m'interpelle, hein, comme on dit aujourd'hui. Alors, vous voyez, c'est intéressant de poser la question. Parce que c'est vrai. Est-ce que, de fait, ces deux parties de la philosophie sont-ils modifiées par la distinction de... Alors, ça a beaucoup d'importance. Parce que j'ai dit, vous voyez, cinq modalités du principe de finalité. Cinq modalités. Est-ce qu'il y en a deux en plus? Ça en ferait sept. Ce serait intéressant. Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Vous voyez, les cinq modalités du principe de causalité finale, je peux les nommer. Hein. Tout être possible dépend de l'exister. Tout amour dépend du bien. Tout jugement intellectuel est ordonné à la vérité. Toute puissance vitale est ordonnée à l'opération vitale et tout corps physique est ordonné au mouvement. J'ai donc cinq modalités du principe de causalité finale. Ceci me permet de mieux comprendre tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Or, il y a cinq modalités de la puissance. Cinq modalités. Vous avez en vous, nous avons en nous, en chacun d'entre nous, cinq modalités. Nous avons donc cinq fêlures possibles, hein, à la manière de Kierkegaard. Les fêlures de l'être, hein, c'est les potentialités de l'être. Vous avez cinq manières d'être fêlé. Métaphysiquement parlant, c'est cinq manières d'être fêlé. C'est quand même très important de saisir ça. Les cinq limites fondamentales de l'être. Les cinq limites fondamentales. Or, comme nous sommes l'être le plus parfait, on reverra ça à propos de la personne, parce que c'est important de saisir ces cinq possibilités d'être brisé. Il n'y en a pas qu'une, nous n'en voyons qu'une, parce qu'on est assez gros, n'est-ce pas ? Mais il n'y en a pas qu'une, il y en a cinq. Toute la philosophie, hein, toute la métaphysique me permet de mieux connaître ce que c'est que l'homme. L'homme concret, ce que je suis. Et donc, dès que je comprends la distinction de l'être en acte et en puissance, immédiatement, j'ai une lumière qui m'est donnée. En moi, c'est évident, en moi, je trouve ces cinq modalités de l'acte. C'est sûr. Je suis un être qui est mu. Je fais partie de ce cosmos, je suis mu. Je suis un être qui se meut. Je suis un être capable de chercher la vérité. Je suis un être capable de découvrir le bien et d'aimer. Je suis un être qui existe. Mais tout ça est donné dans des modalités de puissance. Hein, jusqu'ici. Ça, c'est la fêlure métaphysique. Et la fêlure métaphysique, vous savez bien, c'est celle qui engendre l'angoisse métaphysique. Si vous regardez la fêlure, c'est l'aberrance, hein, extraordinaire dans notre être. Il y a en vous une capacité de néant. C'est pas drôle à regarder. Vous vous penchez, surtout si vous avez le vertige. Hein. Alors la capacité de néant, vous avez le vertige, on a quelquefois le vertige métaphysique. Hein. Le vertige métaphysique, c'est quand on n'est pas assez finalisé. On n'a pas assez de contact avec l'acte, alors on a le vertige métaphysique. Alors vous regardez la béance du néant qui est en vous, alors vous avez ça. Le vertibile ad nihilum, c'est ce que dit saint Thomas. Le vertibile, le vertige vers le non-être. Il peut y avoir le vertige vers le non-être. Il y a en moi une fêlure fondamentale qui est la fêlure à l'égard du non-être. Il y a une fêlure à l'égard du bien. Mon amour peut très bien, à un moment donné, se transformer en haine. Pas drôle. J'ai promis fidélité et voilà que ça craque. C'est vrai, il y a une potentialité radicale. Je ne suis pas substantiellement amour. L'amour est une victoire constante. Une conquête constante. Si je ne fais pas grande attention, ça dégringole. Et alors je me sépare du bien. Il y a une fêlure dans l'ordre du bien, de l'amour. Il y a une fêlure dans l'ordre de l'intelligence. Celle-là est moins vertigineuse parce qu'on a moins le sens. Mais c'est quand même, hein, on peut tomber dans l'erreur. C'est pas drôle de tomber dans l'erreur. Hein, parce que c'est un abîme. On tombe dans l'erreur. Tomber dans l'erreur, c'est quand même quelque chose de terrible. Il y a l'abîme qui appelle. Ça dégringole tout seul. Il n'y a pas besoin de pousser. Ça dégringole tout seul. C'est vrai, mon intelligence a une pente vers ce point de vue de la potentialité. Il y a l'opération vitale, je peux mourir. Il y a en moi un ordre vers la mort. Et puis il y a en moi, un poids d'inertie. Le poids de la matière. Un poids d'inertie. Si je ne fais pas grande attention, je muse. Ce que les physiciens voient, le poids d'inertie, je dégringole. Par nature, je dégringole. Le poids de la matière qui est en moi. Vous voyez, les cinq fêlures. Hein, c'est important. Quand vous réfléchissez sur ces cinq modalités de la finalité, il faut tout de suite saisir le conditionnement, le primat de la puissance dans l'ordre du devenir. Et ces cinq fêlures, c'est justement ce primat de la puissance qui font que ces fêlures, si je ne fais pas grande attention, ces fêlures augmentent. Curieux au point de vue métaphysique de bien saisir ça. Vous voyez, comme le point de vue de la saisie de l'acte et de la puissance me donne toute une vision profonde sur toute ma philosophie. Tout se ramène à ça. Tout se ramène au principe de finalité. Et c'est vrai. La philosophie, c'est fait, la métaphysique, c'est fait pour découvrir tout ce qui est en puissance et ordonné à l'acte. C'est-à-dire, c'est tellement évident. Pas la peine de faire de la métaphysique longtemps. Mais oui, mais il faut le saisir. Tout ce qui est en puissance est en l'acte. Le principe de finalité. Une fois que vous avez saisi ça, vous ne pouvez plus tomber dans la dialectique. Impossible. Vous voyez qu'il y a une découverte de l'être en acte. Il faut toujours faire. Pour comprendre que tout ce qui est en puissance est en l'acte.